Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Alors cette fois, nous sommes avec vous pour parler de point de suspension. Comment parler de la mort aux enfants aux éditions Bayard et Grasset. Ce E, vous en parlez dans votre livre, c'est un doute. En fait, vous abordez cette question d'abord en commençant par un doute. Et moi, la première question que je voudrais vous poser, Delphine Horviller, c'est de quoi êtes-vous certaine?
C'est une question très psychanalytique. Je vais m'allonger un instant avant de débuter. En fait, notre entretien, je me rends compte que d'abord, je chéris énormément le doute parce que je trouve qu'il est salvateur et salutaire dans la vie de ne pas avoir trop de certitudes. Mais si je devais quand même répondre à votre question, parmi les certitudes que j'ai, c'est que je crois fondamentalement à la puissance des histoires. Je crois à la force des récits. Et souvent, quand les gens me demandent de définir quelle est ma religion, ma croyance, c'est évidemment une question légitime qu'on pose à un rabbin. Les rabbins ont souvent du mal à répondre à cette question parce qu'il n'y a pas un dogme dans la tradition juive auquel tout le monde devrait adhérer. Mais moi, j'ai vraiment une croyance profonde et peut-être un rapport indubitable, un manque de doute à ce sujet-là. Je pense qu'on a tous besoin d'histoire. Et je pense qu'on ne peut vivre qu'avec des histoires. Et je pense que les histoires nous changent le monde, pour le meilleur ou pour le pire, mais qu'on ne peut pas faire sans elles.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, justement, à propos d'histoire, c'est que vous donnez des petites précisions qui recadrent le sujet et le contexte. Vous dites, par exemple, qu'effectivement, un rabbin, c'est plus proche d'un conteur que de quelqu'un qui donne des solutions. Dans ce livre, vous nous dites que ce n'est pas un livre qui livre justement des solutions écrites, voilà, clé en main comme un tuto, mais qui parle de témoignage et de partage. Et en fait, donc vous repositionnez les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous donnez des exemples aussi des jeux qu'on utilise avec les enfants, qui sont des jeux assez symboliques, comme la marelle ou 1, 2, 3 soleil. Et vous nous amenez, justement, comme vous venez de le faire, à considérer la symbolique. Alors du coup, la question qui suit pour moi après avoir lu votre livre, c'est qu'est-ce qui s'est passé? On néglige la symbolique aujourd'hui?
Oui, je crois que de façon générale, on néglige la symbolique. Et puis, il y a des sujets qu'on veut à tout prix éviter. Donc, on les masque, on fait semblant de soit de ne pas les voir ou de ne pas savoir en parler. La mort en est un exemple parmi beaucoup d'autres. J'utilise le symbole, par exemple, des jeux que vous venez de citer parce qu'il m'est apparu très vite que c'était un gimmick important dans mon livre. Comment parler de toutes les questions que les enfants nous posent liées à la mort? Souvent, utiliser un univers qui leur est très familier, l'univers des jeux, est en fait une opportunité de conversation. Et il se trouve, à vous donner des exemples de jeux d'enfants, que beaucoup d'entre eux ont une portée symbolique extrêmement puissante. Par exemple, voilà, la marelle, on a tous joué à la marelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on joue à la marelle? On dessine à la craie sur le sol un premier carré qui s'appelle la terre. Et tout au bout de la marelle, il y en a un autre qui s'appelle le ciel. Donc on dessine le cheminement entre le ici et l'ailleurs. Donc c'est une démarche assez religieuse, au sens premier du terme. Et puis, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? On saute à cloche-pied. C'est-à-dire qu'on enseigne aux enfants, sans le dire et à travers ce jeu, que ce cheminement entre l'ici et l'ailleurs, le questionnement sur après la vie, est en fait un questionnement qui se fait en déséquilibre. On a un déséquilibre pour en parler. On ne sait pas en parler avec stabilité, avec certitude. Et je pourrais utiliser comme ça plein d'autres jeux, ce que j'ai fait un peu dans le livre, des métaphores, on pourrait dire des allégories, qui sont des allégories très puissantes pour énoncer des sagesses ou des philosophies intemporelles. Par exemple, le jeu des sept familles, pour moi, est un bon exemple. On a tous joué aux sept familles, c'est un jeu hyper simple. Les règles sont très très simples. Les règles, c'est que le grand-père de la famille jardinier ne peut pas être connecté à la grand-mère de la famille cirque, qui elle-même ne peut pas être connectée au fils de la famille poterie. Je sais pas, je dis au pif, voilà. Mais en fait, on comprend bien que derrière ce jeu, il y a une philosophie qui nous concerne tous, qui est la conscience que les familles ne se ressemblent pas, que ma famille ne fonctionne pas comme la vôtre ou comme celle des gens qui nous regardent en cet instant, que chaque famille a ses codes, chaque famille a ses repères, son langage, sa culture, et qu'il faut essayer de comprendre de quelle famille nous sommes tirés, de quelle famille nous sommes l'enfant ou le parent ou le grand-parent. Et ça, c'est complètement lié à ce que vous disiez tout de suite en introduction. On ne peut pas faire sur la mort, offrir aux gens un livre de recettes. Et j'irais même plus loin, si quelqu'un cherche une recette, c'est-à-dire se pose des questions sur comment parler de la mort aux enfants et voudrait qu'on lui dise voilà ce qu'il faut faire de façon indubitable, voilà quelle est la recette, voilà ce que je vous conseille de faire. En fait, il faut se tenir, à mon avis, à distance des gens qui vous donnent une réponse toute faite, parce que pour pouvoir engager une conversation avec nos enfants ou nos petits-enfants sur la mort, il faut d'abord avoir fait le travail des sept familles, c'est-à-dire s'être posé la question de comment ça fonctionne chez nous, comment on parle ou on ne parle pas juste de la mort, mais des affects en général. Est-ce que dans notre famille, on pleure ou on ne pleure pas? Est-ce qu'on se cache pour pleurer? Est-ce qu'on parle des disparus? Est-ce qu'on les évoque? Est-ce qu'on tait leur histoire? Est-ce qu'il y a des fantômes dans notre famille? Est-ce qu'il y a des revenants? Est-ce qu'il y a des traumatismes dont on a hérité? Toutes ces questions ne tolèrent qu'une réponse spécifique à une famille particulière. Et donc, pour parler de la mort à nos enfants, il faut d'abord explorer le langage, la vision et la culture de notre propre famille.
Et vous disiez en introduction, vous parlez de psychanalyse, mais on est vraiment dans un terrain à mi-chemin entre la psychanalyse, le bon sens et la philosophie, en lisant votre livre. Parce que, comme vous le dites, vous énumérez qu'il est question de l'époque, de la culture, de l'héritage de chaque famille, donc des codes intrinsèques, de la pudeur aussi. Et vous, alors ça pose une autre question qui est celle du contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période telle d'un contrôle absolu qu'on voudrait avoir des mots qui soient communs à tous sans chercher les siens?
Oui, je pense que très souvent, on a besoin, on attend dans une période complexe, de complexité, c'est peut-être le propre de plein de périodes de crise dans notre histoire, on voudrait des réponses très simples. On aime le manichéisme, on voudrait qu'on nous dise voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, incontestablement, ça explique par exemple dans des formules parfois de plein de livres de développement personnel, les gens attendent qu'on leur donne une réponse qui ne tolérerait aucune interprétation différente. En fait, si je devais élargir, et là on s'éloigne un peu du sujet de mon livre, mais c'est un sujet important pour notre société, je trouve qu'on est dans une société où on se débarrasse assez vite de la complexité. Les gens sont souvent à l'affût de réponses très simples, de slogans. En fait, on appréhende les situations de complexité. Alors que bon, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que je pense viscéralement que ce qui est intéressant dans l'existence, c'est les situations c'est de complexifier le débat, toujours des situations de complexité. Et c'est particulièrement vrai quand on parle peut-être de la mort, parce qu'il y a une peur dans nos sociétés qui fait que on s'imagine qu'on peut la garder à distance. Alors, vous avez dans nos sociétés plein de gens qui pensent que la mort, finalement, elle ne survient ou elle ne fait son œuvre que dans des lieux très précis, en des temps très précis. Les gens adorent se raconter des histoires fantasmées, que la mort frappe plutôt dans les soins palliatifs, dans les hospices, dans les services de réanimation, de préférence à des horaires fermés au public. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en protéger. Ne pas l'aborder. Et c'est particulièrement vrai avec les enfants. On leur raconte des histoires de mise à distance de la mort, comme si, non, elle n'allait pas surgir, nous allions les en protéger. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, quand on parle de la mort à proximité des enfants, on baisse la voix, on parle comme ça, entre adultes, pour faire comme s'ils n'entendaient pas, comme s'ils n'allaient pas savoir, n'allaient pas comprendre. Et on sait que tout ça, c'est une fiction. Les enfants sont surconscients de la présence de la mort autour d'eux et du morbide. Souvent, ils font semblant de ne pas savoir parce qu'ils veulent nous protéger. Et ils sont aussi conscients qu'on vit dans une société où il y a comme un silence ou un mutisme excessif sur ces questions-là. La preuve, c'est que les enfants se passionnent toujours pour les récits, les dessins animés. Où il est question de la mort. Je pense par exemple au succès qu'avait eu il y a quelques années un dessin animé qui s'appelle, je crois, Coco, qui se passait au Mexique, où on racontait la place du culte des morts dans la société mexicaine. Dans certaines régions du Mexique, on déterre les morts, on les lave, on les habille, des choses qui nous paraissent à nous des pratiques aberrantes, ahurissantes, très très loin de nos cultures. Mais en fait, on oublie qu'il fut un temps où dans nos cultures européennes, il y avait une présence et une conscience de la mort qui était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Nos grands-mères nous racontent, en tout cas ma grand-mère me racontait toujours que dans la France dans laquelle elle avait grandi, quand quelqu'un était en deuil, il portait un brassard. Quand on passait devant un immeuble où il y avait un mort dans cet immeuble, il y avait un signe sur la porte. Il y avait comme une conscience évidente que la mort faisait partie de la vie. Et donc on partageait l'espace mort et vivant partageaient un certain espace. Et en fait, ça s'est complètement éclipsé. Alors, il y a sans doute plein de raisons à ça. C'est multifactoriel. Je pense qu'il y a la peur de la mort, l'illusion qu'on puisse la tenir à distance. Peut-être la fin, parfois, les gens ne parlent pas de leurs croyances, donc font peut-être moins partie de leur vie, les croyances religieuses. Et puis, il y a une certaine technicité de la science. On pense que la médecine et la science va nous permettre de ne partager notre espace qu'avec la vie et avec les vivants.
Et évidemment, un mensonge. Et tout cela, donc vous le détaillez bien dans votre livre, et ça soulève une autre question, c'est celle de la gravité à hauteur d'enfant. Puisque, comme vous le dites dans votre livre, on le voit bien, on n'aborde pas certaines questions avec les enfants, puisqu'on considère que parler de la mort n'est pas un jeu d'enfant, ce que vous citez aussi dans votre livre. Mais paradoxalement, les enfants ont accès aujourd'hui aux réseaux sociaux, à des séries dans lesquelles il est question d'une grande banalisation de la mort. Et donc, ça soulève une autre question qui est celle de dire finalement, est-ce que ce n'est qu'une question de vocabulaire ou est-ce que c'est aussi une question finalement d'anticipation de ce qu'est l'enfance pour décider que l'enfance ne sera que inconsciente du réel ?
Je ne sais pas, en tout cas ce qui est fascinant c'est de voir à quel point très tôt, les enfants sont conscients de la mort qui surgit et d'ailleurs sont eux capables de la nommer là où souvent leurs parents hésitent à le faire. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me racontait une anecdote très personnelle, une journaliste qui me disait que son fils tout jeune lui a demandé où était son grand-père qui était décédé avant sa naissance. Et donc il a dit à sa mère « Où est papy ?» Et donc elle savait pas comment expliquer à son enfant que son père était décédé, donc elle lui a dit « Papy est au ciel ». Et à ce moment-là, son enfant, son enfant a tapé sur la table en disant « Ah bon, il est mort ?» Et en fait, c'est un moment extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait, le parent fait tout ce qu'il peut pour cacher les mots, les envelopper de quelque chose, d'une espèce de papier, de bonbon, de quelque chose d'un peu plus doux, un peu moins illustré, voilà. Et puis l'enfant signale aux parents qu'il sait et qu'il connaît le mot et qu'il aspire en réalité à ce qu'on lui dise la vérité. Très souvent, les enfants le savent. Donc je pense que notre façon de ne pas en parler ne révèle pas tant, à mon avis, notre volonté de protéger nos enfants que notre volonté de nous protéger nous-mêmes. Je crois qu'on en est tous conscients comme parents. Quand on donne naissance à un enfant, on signe un espèce de contrat tacite de pseudo-certitude. C'est-à-dire que très souvent, comme parents, on a terriblement envie de dire à nos enfants « Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Il ne peut rien t'arriver. Je veille sur toi et je serai toujours à tes côtés. » Et en fait, ces phrases qu'on voudrait tellement énoncer et énoncer encore, on sait très bien, comme parents, qu'elles sont terribles parce qu'elles sont évidemment fausses. Personne ne peut garantir à son enfant qu'il ne nous arrivera rien, qu'il ne lui arrivera rien, et surtout pas qu'on sera toujours là pour le protéger. Et je trouve que il faudrait apprendre, pratiquement comme parents, à se présenter autrement à nos enfants, c'est-à-dire à ne pas revendiquer cette toute puissance parentale, espèce de contrat d'infaillibilité d'adulte, mais peut-être au contraire être capable de paradoxalement, de renforcer nos enfants par le fait que parfois, ils nous voient en situation de faille ou de doute ou de faillite. C'est-à-dire pouvoir reconnaître avec nos enfants que le propre d'une expérience adulte, de cette puissance existentielle, c'est de reconnaître que notre vie est faite d'appréhension, d'incertitude, de doute, mais que malgré tout, on va pouvoir en parler avec eux. Alors, je suis consciente que tout ce que je vous dis est facile à dire et pas facile à faire, hein, mais on ne peut sûrement pas s'engager dans cette direction et ce travail si on n'est pas prêt à en parler. Et en fait, moi, en écrivant ce livre, c'est d'une certaine manière ma seule ambition. J'ai écrit ce livre en me disant qu'il allait pouvoir agir comme un support de conversation entre les générations. On n'arrive pas à se parler, l'enfant ne sait pas s'il peut poser les questions, l'adulte n'a pas de réponse. Et parfois, un support comme un livre est une possibilité. On lit quelques pages en famille et on interrompt la lecture pour discuter de ça, pour que l'enfant puisse dire, tiens, est-ce que toi t'aurais fait ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que t'aurais réagi comme ça? Est-ce que dans notre famille ça se passe de la même manière? Vous voyez, un support de conversation qui permet un peu plus à l'adulte de s'exposer, pas pour en être amoindri aux yeux de son enfant, mais au contraire, pour en être grandi d'une certaine exposition de notre histoire.
Ça veut dire que finalement, le fond du problème avec la mort, comme avec ces grands sujets-là, c'est que nous ne trouvons pas toujours le bon vocabulaire à partir du moment où ça met en jeu nos émotions.
Oui, et je crois que c'est particulièrement vrai sur ce sujet de la mort, parce que moi, si j'ai vraiment appris quelque chose de mon expérience de rabbin, de personne qui accompagne très souvent le deuil et la mort, je pourrais le dire en une phrase, c'est que personne ne sait ou ne peut parler de la mort. Mais c'est même sa définition. On ne sait pas parler de la mort, mais on sait parler de la vie. Et quand la mort frappe à notre porte, ou quand elle nous menace, ou quand elle fait un comeback dans notre existence, il y a une arme très puissante dont on dispose, c'est une capacité à parler de la vie et du vivant. On en a tous fait l'expérience si on est déjà allé à un enterrement. Dans un enterrement ou dans une maison d'endeuillés, les choses les plus puissantes se passent, les moments de consolation très puissants arrivent, quand on est capable de raconter, pas la mort de la personne, mais sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait dans son existence? Quelles ont été les grandeurs et parfois les petitesses de sa vie? Qu'est-ce qu'elle a réussi? Qu'est-ce qu'elle a loupé? Quels étaient ses rêves? Qu'est-ce qu'elle a su réaliser? Qu'est-ce qu'elle n'a pas su réaliser? Parfois, les gens racontent dans les enterrements des anecdotes incroyables qui peuvent paraître, par définition, anecdotiques, mais qui, en fait, sont ce qu'on pourrait appeler une sorte de part mort ou de part morbide. Au sens de parer, empêcher la mort d'agir. Vous savez, quand tout à coup, autour d'un deuil, les gens racontent comment une personne était systématiquement en retard, cuisinait mal et brûlait tous les gâteaux qu'elle faisait, arrivait, voilà, je sais pas, loupait des rendez-vous, aurait rêvé de faire ceci et n'y est pas arrivé. Ça pourrait paraître comme une dévalorisation de la personne, mais pas du tout. En fait, quand on raconte, encore une fois, les failles de la personne, tout ce qui constitue son absolue humanité, à notre image, eh bien, il y a quelque chose qui se dit, qui se transmet. Et en fait, encore une fois, on ne peut pas parler de la mort, mais le surgissement de la mort est une opportunité de parler de la vie et de faire qu'elle puisse avoir le dernier mot dans la conversation.
Et dans votre livre...
Pardon.
Je vous en prie.
Oui. Non, je dis encore une preuve qu'on ne peut pas parler de la mort, c'est que ça aussi, on l'a tous vécu dans notre vie. Des gens qui viennent présenter leurs condoléances et qui disent, pardon du terme, des conneries. Quand vous essayez de parler de la mort, vous êtes amené à dire souvent des espèces de banalités, des choses convenues qui ne consolent personne, des phrases du style « les meilleurs partent les premiers, c'est mieux ainsi, maintenant ils ne souffrent plus ». Vous savez, toutes ces phrases un peu convenues qu'on a entendu tant de gens prononcer et qui sont toujours à côté de la plaque. Il ne faut pas essayer de parler de la mort, mais il faut rappeler la vie.
Dans votre livre, on pense à deux choses aussi qui sont très intéressantes. Parce que souvent, Delphine Arvilla, vous prenez en exemple des mots d'enfant. Et c'est très important dans votre écriture. Et on pense d'un côté à Maria Montessori, qui a tant travaillé sur la symbolique du jeu, dont vous parlez aussi. Et on pense aussi à Hannah Arendt, qui a développé le fait qu'à un moment donné, le pire peut arriver quand on ne pense pas, quand on arrête de penser. Et au milieu, il y a votre réflexion qui nous invite à nous questionner sur ce que nous abandonnons en grandissant. Est-ce que c'est parce que nous n'en avons pas les mots, ou est-ce que c'est parce que, justement, nous sommes dans une culture qui en fait le déni?
Je pense qu'on est dans une culture qui, non seulement en fait le déni, mais, et on en parlait un peu tout à l'heure, est obsédée par les oppositions binaires. En fait, souvent, la façon dont on éduque les enfants, mais aussi la façon dont on se présente le monde, où on aime le présenter, on fait constamment des oppositions, le chaud, le froid, le gentil, le méchant, le bon, le mauvais, le blanc, le noir, enfin, je ne sais pas, toutes ces oppositions. Et on a l'habitude de présenter la vie et la mort comme habitants des espaces distincts. Et évidemment que c'est, particulièrement pour la vie et la mort, une lecture totalement erronée. On le sait tous, et les enfants le savent très tôt, la mort fait partie de notre vie, est constamment à l'œuvre dans qui nous sommes. Je mets de côté le fait de perdre des gens qu'on aime ou de rencontrer la mort à travers le décès de personnes. On en est conscient dans bien d'autres domaines. Il y a des mots, des langages qu'on utilisait, qu'on n'utilise plus. Nos parents ou nos grands-parents parlent d'une certaine manière et leur langage est mort pour la nouvelle génération qui va inventer d'autres mots. On est tous conscients dans notre vie que on avait des idées qui ne sont plus valides, des histoires d'amour meurent, parfois des relations d'amitié disparaissent, ce qu'on était n'est plus celui qu'on est devenu. En fait, il y a une conscience permanente dans l'existence, pour quiconque veut y réfléchir un peu sérieusement, du fait que nous sommes qui nous sommes parce que la mort a fait son œuvre en nous. Ce qui est mort nous a sculptés et a fait que nous sommes encore en vie parce que nous ne sommes plus celui ou celle que nous étions. Moi, je donne toujours l'exemple d'un référent de biologie, de la vie de notre corps, de notre organisme. Là, pendant qu'on se parle, si tout va bien et si on est en bonne santé, constamment, pendant notre conversation et pendant notre journée, des cellules de notre corps engagent un processus de destruction, parce que c'est ainsi que notre organisme est en bonne santé. Constamment, quelque chose en nous meurt pour qu'il y ait un renouveau, un changement. Et d'ailleurs, très souvent, on le sait aujourd'hui, c'est quand ce processus est perturbé, quand il y a une inhibition d'un processus de mort cellulaire, que l'organisme s'emballe et que nous sommes en danger de développer notamment des tumeurs ou plein d'autres choses. Donc il y a une réflexion philosophique intéressante à mener. La biologie nous enseigne que parfois dans la vie, un excès de vie nous met en danger parce que la mort et le processus de mort doit tout le temps faire son œuvre. Et je trouve que c'est quelque chose dont on doit parler avec nos enfants, leur faire comprendre qu'ils sont là parce que d'autres avant eux, d'autres gens, d'autres idées, d'autres événements ne sont plus. Quelque chose s'est éteint pour qu'ils soient là. Et tout au long de leur vie, ce processus va être à l'œuvre et va les modeler. Et en fait, voilà, c'est ça la définition de la vie. C'est une façon de composer avec la mort, de se poser la question de quelles sont les traces qui restent, mais qu'est-ce qui a dû s'éteindre pour que ça continue ?
Est-ce que pour compléter cela, il faudrait réfléchir au fait que nous faisons plus ou moins, voire moins adultes qu'enfants, confiance à notre intuition ?
C'est une bonne question, je ne sais pas, peut-être, en tout cas plus qu'à notre intuition, je pense que, moi je crois beaucoup, mais je pense que vous en êtes rendu compte, c'est une forme d'obsession chez moi, je crois beaucoup à la force des mots et au langage, et donc être capable d'écouter les mots qu'on prononce, d'écouter les mots que l'on tait aussi. Encore une fois, quels sont... dans nos familles, les mots qu'on prononce, qu'on se transmet, sur quoi reposent les silences, interpréter les secrets, par exemple. Je pense que ça, c'est une conversation essentielle à avoir dans nos sociétés, mais dans nos familles tout particulièrement. Sur quel non-dit nous sommes-nous construits ? Sur quel secret de famille reposent nos identités ? Et aucune famille n'échappe... à cela. Je raconte dans le livre que dans mon métier de rabbin, très souvent, je reçois des gens et la phrase que j'entends le plus, mais vraiment de loin, la phrase que j'entends le plus, quand des gens s'assoient face à moi dans mon bureau et veulent me parler de leur histoire familiale, ils commencent très souvent par cette phrase. Ils me disent, vous savez, dans notre famille, c'est compliqué. Et cette phrase, elle est extraordinaire parce que j'ai toujours une envie folle de dire à ces gens, vous voulez dire compliqué ? Comme dans la famille de la personne qui était assise là juste avant vous, ou comme dans la famille de la personne qui s'assera là juste après vous. En fait, on a toujours l'impression que chez les autres, c'est un peu plus simple, que chez nous, il y a plus de nœuds, plus de complexité. Et en fait, c'est pas vrai. Dans chaque famille, il y a des mots, des silences, des nœuds à dénouer. Et d'une façon particulière, le deuil est un moment particulièrement propice pour convoquer tout cela. Comme tous les rites de passage, d'ailleurs.
Mais le problème que nous avons du vocabulaire pour parler de la mort tient-il aussi au fait que nous n'avons pas de vocabulaire pour nuancer le silence ou l'absence ?
Oui, on a un vocabulaire peut-être limité, mais le vocabulaire est le reflet souvent de notre inconfort ou de notre malaise. Je vous donne un exemple que j'ai souvent cité, qui est la question de comment nommer un parent qui perd un enfant. Vous savez, en français, si vous perdez vos parents, vous devenez orphelin. Si vous perdez un conjoint, vous êtes veuf ou veuve. Mais qu'est-ce que vous êtes quand vous perdez un enfant ? Il n'existe pas, en français, de mot pour le dire. Et c'est extrêmement révélateur. Dans plein de langues, ce mot n'existe pas. Alors, dans « Vivre avec nos morts », j'avais développé cette idée qu'il y a des langues où ça existe. Par exemple, en hébreu, il se trouve qu'il y a un mot pour dire ce qu'on est quand on perd un enfant. C'est le mot qu'on utilise en hébreu, qui est le mot « shakul », qui vient de la Bible, et qui signifie quelque chose comme une des étymologies du mot. C'est qu'un parent « shakul » est comparé à un sarment de vigne dont on a coupé la grappe. Et donc, l'image, vous l'apercevez forcément, c'est que cet arbuste est encore empli de la sève de vie qui coule en lui, mais ne sait plus qui nourrir, ne sait plus vers qui envoyer cette sève de vie. C'est une image extrêmement puissante. Et donc, c'est cette image qu'on utilise et qu'on a greffée sur cette situation. Mais le fait que, en français, on n'ait pas de mots, raconte que la langue se refuse à dire parce que l'esprit se refuse à le penser. Et pourtant, quand ça surgit malheureusement dans la vie d'une famille, quand tout à coup des gens perdent un enfant, alors à ce moment-là, souvent le désespoir est tel qu'on a incroyablement besoin de mots qu'on sait qu'on ne trouvera pas, qu'on ne pourra pas trouver. Une situation de perte d'un enfant, c'est en fait une situation impensable, évidemment de renversement des générations. Quand les gens perdent un enfant, il va falloir, et c'est une mission impossible, mais il va falloir que cet enfant, qui est leur descendant, devienne leur ancêtre. Puisque l'accompagner, l'enterrer, en faire le deuil, c'est accepter de se placer dans sa filiation. Et donc ce produit-là, sorte d'impensable de renversement des temps et de renversement du langage et de renversement des mots, comment faire de son descendant son ancêtre? Personne n'a de réponse à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut accompagner les gens qui vivent cet impensable. Les accompagner avec nos mots, les accompagner avec notre présence, avec notre silence parfois.
Il y a beaucoup de douceur dans ce livre, à nouveau, et on connaît votre écriture et pour cette raison-là, son intelligence et sa délicatesse, j'ai envie de dire. D'abord parce que ça invite à une forme de prudence. Et cette prudence, elle est aussi très, très curieuse. Vous nous donnez envie d'aller voir dans les autres cultures. Vous parliez tout à l'heure de l'Amérique du Sud. Et dans ce livre, vous revenez sur l'expression « il était une fois ». Vous décortiquez aussi des façons de l'utiliser différemment dans d'autres langages, et ça montre finalement justement quoi, la limite, l'austérité de notre altérité.
Oui, je pense que dans chaque langue il y a une façon de traduire. Je me suis intéressée à il était une fois parce que c'est une expression convenue qui existe presque dans toutes les langues, mais effectivement chaque culture le traduit à sa manière. Il était une fois en français, l'utilisation de l'imparfait. On devrait dire il fut une fois en français. Il fut une fois et une princesse fut kidnappée par un dragon et un prince vint la sauver. En fait, il était une fois suggère par l'imparfait l'idée que cette histoire n'a pas cessé de se passer. L'imparfait, c'est la langue de la routine, la langue de la répétition et le temps de la répétition. Donc en fait, le français suggère que les histoires qu'on raconte à nos enfants font semblant d'être des histoires qui se sont passées un jour, mais sont des histoires qui se répètent constamment. En fait, pourquoi je m'intéresse à ça dans le livre? Parce que, encore une fois, je pense qu'on doit toujours aller chercher derrière les mots qu'on utilise et derrière les mots dont nous sommes les héritiers, quelles sont leurs sédimentations, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qu'ils racontent de notre culture. Encore une fois, c'est une histoire de rapport au langage, vous le voyez. J'utilise « il était une fois », mais je m'intéresse aussi dans le livre à la question de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », qui conclut tellement de nos contes dans la culture française. C'est intéressant parce que c'est une ellipse, en fait. Quand on termine un livre en disant « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », évidemment, on oublie de dire qu'ils vieillirent et ils tombèrent malades et ils moururent. On termine rarement les livres comme ça. Mais c'est une convention. Le lecteur sait qu'ils ne firent pas que vivre heureux. Plein de choses ont encore surgi dans leur vie, notamment probablement des épisodes dramatiques. Mais donc c'est une façon qu'ont nos livres et nos récits et nos langages de... C'est toujours intéressant de se poser la question de à quelle ellipse, quelle impasse cherchent-ils à faire. Voilà. Moi, je crois encore une fois, et finalement, c'est le thème depuis le début de notre conversation et de notre dialogue, et je m'en réjouis, je crois à la force des langages et des récits, parce que je trouve que trop souvent, on oublie de les interroger, on oublie de les questionner, on les accepte comme évidents. Et nos enfants, souvent, nous rappellent qu'ils peuvent être interrogés. Que, vous savez, moi, j'adore discuter avec des enfants parce qu'ils entendent souvent les mots dans leur sens littéral absolu. Avant d'entendre le sens allégorique ou le sens figuré d'une expression, très souvent, les enfants entendent le sens premier. Je raconte souvent cet épisode, mais quand mon fils était tout petit, un jour, je ne sais plus quelle bêtise il avait fait, et je lui ai dit « Oh là là, tu me casses les pieds !» J'ai vu mon fils, pendant 5 minutes, regarder mes pieds, me regarder, regarder mes pieds, me regarder, parce que lui entendait le sens littéral de l'expression que depuis fort longtemps, comme adulte, je n'entendais plus. Mais c'est intéressant de se remettre vraiment à hauteur d'enfant, c'est-à-dire dans la simplicité et la naïveté, mais c'est plutôt dans une certaine grandeur et pureté du rapport à la langue.
En quoi ça nous rend plus fort ?
Je crois que ça nous rend plus fort parce que j'ai la conviction que l'appauvrissement du langage nous affaiblit toujours. Et je crois que tous les récits peuvent nous changer, comme je le disais tout à l'heure, nous grandir. Et là, peut-être j'ouvre une parenthèse plus politique de notre conversation. Moi, je trouve qu'on vit dans un temps où on assiste à un appauvrissement très fort des mots, du langage. Il y a plein de gens autour de nous qui se laissent convaincre par des slogans, par une sorte d'appauvrissement des concepts, par des lectures ultra-binaires, des bons, des méchants, des forts, des faibles, des dominants, des dominés. Quelque chose qui est, oui, à mon sens, incroyablement appauvri dans notre rapport à la fois au langage et au récit. Et je pense que c'est le propre de tous les basculements politiques dangereux. Il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, sur comment est-ce que le basculement vers le totalitarisme passe toujours par une manipulation du langage et par un appauvrissement du langage et des concepts. Et je crois qu'il y a un enjeu politique majeur aujourd'hui pour nous, pas juste des enjeux familiaux, des enjeux vraiment politiques et de société, à penser l'importance d'un langage complexe et riche, interroger les mots, leur pouvoir dire, bien au-delà de leur vouloir dire. Voilà. Alors c'est vrai que c'est au cœur de mon métier de rabbin, en fait. Le seul métier vraiment des rabbins, c'est de travailler avec l'exégèse, l'interprétation, penser ce que le texte a voulu dire, ce qu'il pourrait dire, ce qu'il veut dire et ce qu'il peut encore dire. C'est quelque chose qui, évidemment, me passionne, mais je crois qu'il y a derrière ça un vrai enjeu de société, de politique. La puissance du langage à détruire ou à construire des mondes. Avec les mots et avec les récits, on le sait, on peut produire le pire comme le meilleur, on peut rendre les gens minables et médiocres, comme on peut les rendre dignes et courageux et incroyablement humains. Et c'est vraiment un enjeu pour notre société, pour les parents que nous sommes, pour les citoyens que nous sommes, pour les pédagogues que nous sommes. C'est pour moi le défi de notre génération, a quelque chose à voir avec notre rapport au langage.
Dans votre livre, vous nous invitez aussi à nous positionner, à réfléchir sur la mission que nous pouvons avoir, entre guillemets, bien sûr. Delphine Arvillard, quelle histoire avez-vous pour mission de raconter ?
Je ne sais pas, peut-être je vous répondrai à cette question dans quelques années, si Dieu me prête vie. Il y a plein d'histoires de récits dans la tradition juive qui posent d'une certaine manière exactement la question que vous venez de me poser et qui suggère que notre âme qui nous a été confiée, ou chacun d'entre nous aurait pour mission à travers son âme, encore une fois on peut interpréter littéralement ou allégoriquement ce que je dis maintenant, chacun aurait pour mission de venir raconter une histoire, de venir apporter un récit dont l'humanité a besoin. Et je crois que jusqu'à l'heure de notre mort, on ne sait pas exactement quelle est l'histoire qu'on est censé venir raconter, quelle va être notre contribution, peut-être notre rime, notre phrase, notre mot à nous Encore une fois, c'est une histoire de langage et de récit. Une des raisons de ce livre, et je le développe tout à la fin de l'ouvrage, une des raisons du titre, vous en disiez un mot il y a un instant, j'ai choisi une interjection, c'est un peu bizarre comme titre de livre, EUH, trois petits points, ça traduit évidemment cette idée qu'on est dans l'inconfort, on ne sait pas comment parler de la mort aux enfants, on bégaye, on bafouille, on hésite. Mais en réalité, la clé du titre est donnée à la fin du livre. Je fais un petit spoiler maintenant. Mais il se trouve qu'un jour, un journaliste dans une interview m'a posé une question, comme parfois les journalistes le font, une question un peu grotesque, comme d'un questionnaire de Proust. Vous savez, parfois les journalistes vous disent que voudriez-vous manger avant de mourir, sur quelle planète voudriez-vous habiter, quel événement historique changeriez-vous dans l'histoire, et parmi mille exemples. Et cette personne m'a posé cette question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il m'a dit « Que voudriez-vous que soit votre dernier mot avant de mourir ?» Alors, très inspirée comme je l'étais ce jour-là, j'ai répondu Alors bien sûr, ça marquait mon incapacité à trouver une réponse à sa question, mais a posteriori, je me suis dit que c'était vraiment la réponse pour moi à cette question, que je voudrais, avant de mourir, être en train de dire c'est-à-dire être en train de réfléchir, être en train de penser, ne pas avoir fini de parler et de dire. Je trouve que c'est un assez beau projet que celui-là, de se dire que à aucun moment dans notre vie, on aura le sentiment qu'on a fini de parler, qu'on n'a plus rien à dire, qu'on n'a plus rien à apporter ou qu'on a fini de réfléchir. Et je trouve que si on peut tous essayer de se projeter en se disant que jusqu'au bout, on sera dans le trois petits points, c'est-à-dire dans la suspension, encore suspendue à une pensée et à une parole, ça me paraît pas mal.
Et votre livre, à cet endroit, apporte un éclairage qui est très intéressant, puisqu'il ne s'agit pas de vulnérabilité ou d'impuissance, ou plutôt, si, il s'agit de vulnérabilité et d'impuissance, mais aussi de ce que ça génère comme réflexion. C'est-à-dire que ça n'enferme pas, justement, les limites, mais ça les ouvre. Et puisque vous parlez de la fin de votre livre, et que moi, je voudrais vous parler de la fin de notre entretien, puisque nous y arrivons, la dernière question que j'aimerais vous poser, Delphine Horviller, c'est ce que vous pensez de la série « Le sens des choses ». Qui n'est pas sans rappeler ce dont nous parlons aujourd'hui, et d'ailleurs un épisode assez lumineux sur la mort, et j'aimerais bien avoir votre sentiment.
Oui. Alors, effectivement, Le sens des choses, c'est une série qui est adaptée très librement du livre « Vivre avec nos morts », qui donc s'est éloignée considérablement de ce livre, mais c'était avec mon accord, puisque les scénaristes m'ont proposé de transformer d'une certaine manière, l'esprit de Vivre avec nos morts en une comédie pour aborder l'histoire d'une femme, jeune femme rabbin, qui n'est pas moi. Beaucoup de gens pensent que c'est moi, mais en fait, moi, je trouve qu'elle ne me ressemble pas tellement. Mais elle est effectivement imbibée pas mal de réflexions du livre ou de beaucoup d'enseignements que j'ai pu essayer de transmettre ou livrer ces dernières années. Et c'est une vraie interprétation que je trouve très réussie, cette série. J'avoue que pour moi, ça a été assez émouvant et satisfaisant de voir qu'ils ont réussi à faire une série à la fois très drôle, à mon sens, mais surtout très intelligente et profonde sur de bien des manières, même s'il est très peu question de la mort dans cette série, il est toujours un peu question du deuil, de tous les deuils qu'on a à faire dans l'existence, du deuil qui vient avec la naissance d'un enfant, du deuil qui vient avec l'idée que nos parents pourraient mourir, du deuil qui vient avec le fait de quitter la maison de ses parents, avec devenir quelque chose. En fait, cette série traduit très bien le fait que le propre d'une existence, c'est de réussir à vivre avec ce qui n'est plus, avec ce qui ne sera plus, et de faire quelque chose de ce qui pourrait être vécu comme une tragédie, mais de réussir parfois même grâce à l'humour, grâce aux mots et grâce au récit, à rester pleinement vivant et grand et digne. Donc je suis très contente de ce qui a été fait, voilà, comme cette adaptation. Moi, je recommande, je ne sais pas si je peux faire un moment publicitaire, mais je recommande cette série, je trouve qu'elle est, elle est très réussie. Et je suis aussi très heureuse comme auteure qui se soit éloignée du livre, parce que c'est quelque chose de pas facile pour un auteur de voir effectivement un de ses livres adapté, parce qu'il faut accepter le jeu de l'infidélité au texte. Et je trouve que l'infidélité qu'ils ont proposée est une vraie... Et un vrai cadeau, en réalité, pour le livre. Ils ont fait grandir le livre, à mon sens, dans une direction intéressante.
Je vous rejoins pour recommander cette série et pour recommander votre livre aussi, qui n'est pas dénué d'humour. Hein. Delphine Orvillard, vous avez quand même aussi cette façon de regarder avec un sourire les sujets que vous traitez, si graves soient-ils, et on vous en remercie. Merci beaucoup, Delphine Orvillard.
Merci à vous.